Esperanza, émission préparée et animée par Paul Sud, quand résister, c'est créer.
Elles sont nées pour faire rêver, dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes ont tant d'habileté, d'habileté, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Montant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour travailler et faire chacune deux journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle.
Demande à Sveltana Alekseyevitch, prix Nobel de littérature en 2015.
Vous avez, jeune journaliste, eu l'idée de dépasser votre travail de simple journaliste pour accéder à ce qui est finalement à l'origine de votre démarche à travers ce premier livre qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme ». Dans quelles circonstances ce projet s'est-il formulé ?
Я сейчас расскажу, но хочу сказать, что сегодня время более страшное и более непонятное, чем тогда. Потому что тогда было понятно, где добро, где зло, где прилично быть человеку интеллигентному, где неприлично. То есть у нас было многое, что нас объединяло и что и соединяло. Сегодня все это размыто, добро и зло перемешалось, и в головах свалка идей, вариантов. То есть время более сложное.
Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que l'époque actuelle est, à mon sens, plus terrible que celle des années 80 où j'ai commencé mon travail littéraire, parce qu'à l'époque, il était clair où était le bien, où était le mal. Il était clair ce qui était bon pour un intellectuel, ce qui était digne pour un intellectuel et ce qui était indigne. Il était clair qui étaient les amis, qui n'étaient pas les amis. Les choses étaient beaucoup plus simples aujourd'hui. Sur le plan intellectuel, c'est devenu une soupe. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. Le bien et le mal se sont mélangés. Les gens sont passés dans un camp à l'autre. Et pour moi, c'est une époque. L'époque actuelle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus terrible, au fond, pour les intellectuels que celle d'antan.
Я думаю, вам интересно, вот это, если представить это в какой-то сцене, это вот одна из моих встреч с цензором, когда книгу не пускали. И вот когда я пришла к цензору, он начал говорить со мной обоймой таких фраз, которые было принято тогда говорить, и ломать как бы писателя, который был не в русле политики партии. А когда мы начали с ним говорить, я увидела впервые у этого следователя растерянность в глазах, потому что я была уже с поколения, которому было мало только одной политики.
Pour que vous compreniez mieux la situation, je vais vous raconter comment j'ai eu affaire à mon premier censeur, parce que le livre La guerre n'est pas une geste de femme a été interdit de publication pendant deux ans. Et ce censeur, au début, m'a dit des phrases qu'il devait dire, des phrases qui étaient habituelles, c'était la langue de bois habituelle. Mais lorsque j'ai commencé à m'opposer à lui, à lui opposer des arguments, à lui expliquer, j'ai vu pour la première fois chez cet homme qui n'était pas du tout habitué à la contradiction, j'ai vu pour la première fois l'ombre du doute passer dans ses yeux et tout d'un coup, j'ai bien senti qu'il était déstabilisé. De quoi s'agissait-il? Dans mon ouvrage La guerre n'a pas un visage de femme, il y a un moment donné une scène d'été, il fait très chaud, l'armée avance naturellement à pied, les hommes marchent devant et il y a un régiment de femmes qui marche derrière. Il fait très chaud, et les hommes essaient, malgré le fait que c'est des femmes et qu'elles sont jeunes, elles sont tout à fait désirables, attirantes, ne les regardent pas, regardent dans l'air. Pourquoi? Parce que ces femmes marchent, un grand nombre d'entre elles ont leurs règles, elles laissent des traces de sang en marchant. Et voilà que l'aviation allemande arrive, commence à bombarder, à mitrailler. Les hommes, naturellement, se jettent tout de suite dans les fourrés pour se cacher. Les femmes ne se jettent pas dans les fourrés, elles se jettent dans un lac qui est à côté, elles commencent à se laver, parce que la honte est plus forte que la mort. Et alors je lui ai dit, vous savez, un être humain, ce n'est pas seulement de l'esprit, un être humain, c'est aussi un corps. Ces femmes avaient des particularités biologiques qui font partie de leur féminité. Pour moi, ce sang, c'est le sang de la vie, ce n'est pas le sang de la honte. Mais elles vivaient ça autrement. Il y avait aussi l'attitude orientale vis-à-vis des femmes qui se mélangeait. Et je voyais, quand je lui racontais tout ça, comment il se rendait compte soudainement que quelque chose était en train de se passer et qu'il avait en face de lui une autre génération, tout simplement une autre génération de gens qui ne se satisfaisaient plus de la langue de bois. Et alors il m'a dit des choses que je suis sûr, j'ai beaucoup réfléchi à ça, je suis sûr qu'il n'a jamais dit à personne et peut-être que lui-même ne s'attendait pas à ça. Et alors il m'a dit, vous savez, la vérité c'est quelque chose de très élevé, la vérité c'est quelque chose qui est dans le ciel. Pour un communiste, c'était assez étrange comme expression. Et alors que vous rabaissez la vérité, vous la rendrez terrienne, vous la rendez terrestre. Comme si parler de la souffrance physique des femmes et du sacrifice énorme des femmes russes, qui avait un million de femmes qui ont combattu, était pour lui, au fond, quelque chose d'intolérable.
Et l'épisode que vous racontez dit bien l'enjeu de votre livre, qui est justement de dépasser le discours ou le livre qu'aurait attendu ce censeur, qu'aurait satisfait ce censeur, c'est-à-dire un livre qui rentre dans la cohorte à l'époque de tous ces livres sur la guerre, où la guerre est d'abord héroïque, où il n'y a que des gestes plutôt beaux, même si c'est tragique, il y a toujours la souffrance, mais la souffrance sublimée par la victoire, et une guerre est avant tout d'hommes aussi, où les femmes qui sont des héroïnes sont des femmes très masculines d'une certaine façon. Or, on sent bien que vous aviez eu envie de réagir comme ça contre ça en disant non, la guerre de ces femmes, c'est autre chose. Mais comment ça s'est déclenché l'idée de ce livre même? C'est la rencontre avec l'une de ces femmes?
Я думаю, что это глубокая детская травма. поскольку я выросла уже в послевоенной деревне, и послевоенная деревня, она была практически без мужчин. Это были одни женщины. Я прекрасно помню, что мужчин было очень мало в деревне, и женщины все время говорили вот об этих мужьях, своих сыновьях, которых не было. То есть все время витал некий образ смерти над всем этим. И поэтому память о войне у меня была абсолютно женская, потому что если
Je crois que le début de ce travail sur la guerre et les femmes vient d'un traumatisme d'enfant. J'ai grandi dans un village slave où il n'y avait pas d'hommes. Donc j'entendais les pleurs des femmes. Les femmes parlaient constamment de leur mari qui n'était plus là, de leur fils qui n'était plus là. Et il y avait à la fois un message comme ça de mort, enfin une sorte de message de mort, mais en même temps, avec des intonations, des pleurs, une musique féminine. Et j'ai toujours voulu retrouver cette musique dans mon travail, parce que je savais que lorsque les hommes parlaient, il y avait quand même quelques hommes qui, lorsqu'ils parlaient de la guerre, ils parlaient comme les livres, ils parlaient comme à l'école. Il n'y avait rien de nouveau pour nous. Alors que lorsque c'était les femmes qui en parlaient, il y avait une vérité et une intonation qui est devenue pour moi une chose obsédante que j'ai toujours voulu retrouver dans mon travail d'écriture.
И я могу сказать, что в юности я даже не любила читать книги о войне, хотя это были любимые книги в моем поколении, в послевоенном поколении, как же «Дети победителей», «Страна победителей». И когда я уже была журналистом, ездила, и я никогда бы не подумала, что моя первая книга будет о войне.
En effet, pour revenir à votre question, ce livre est parti d'une rencontre, je me souviens très bien, j'ai rencontré une femme qui correspondait un peu à un stéréotype de la femme un peu russe, un peu soviétique, un peu grassouillette, très douce, habillée avec un peu négligé, comme ça, avec une voix très douce, une femme qu'on aurait pu rencontrer partout dans la rue. Et soudain, et c'était une femme, un tireur embusqué, et soudain, elle m'a parlé des 75 hommes qu'elle a tués pendant la guerre et qu'elle a vus dans son viseur.
Et
ce discours sur la mort m'a posé immédiatement la question pourquoi est-ce que la mort est devenue chez nous quelque chose d'aussi ordinaire, quelque chose d'aussi banal. Et je me souviendrai toujours, c'est d'ailleurs dans le texte, cette manière qu'elle avait d'en parler, qui était à la fois dépassionnée, et en même temps, elle vous disait que après la fin de la guerre, elle ne pouvait plus, pendant des années, aller chez un boucher ou bien aller au marché, l'on vendait de la viande, parce que ces étals de viande, le rappelaient la viande humaine, surtout la viande de poulet. La viande de poulet, la couleur de la viande de poulet, lui rappelait la couleur de la chair humaine. Et c'est cette rencontre, ce témoignage, à la fois anodin et extrêmement fort, qui m'a poussé à travailler sur ce livre.
И что меня вот, я поняла, что можно написать книгу, что в женском взгляде было ясно, что меня все время поражало в женских рассказах, я потом стала встречаться с женщинами, что женщина всегда выскакивала из своего времени. Ей мало было вот рамок своего времени, несмотря на тот пафос, который сохранялся в этом поколении, что мы пошли, потому что мы хотели защищать
rencontre,
родину, потому что мы
родина,
это одно и то же.
Она все время вырывалась. C'est-à-dire qu'elle ne parlait de la guerre, du temps concret de la guerre qu'elles ont vécu, était insuffisant. Elle sortait immédiatement de ce contexte. Elle parlait de l'essence de la guerre, elle parlait de la haine, elle parlait du cœur. Elle disait, par exemple, qu'on ne peut pas avoir deux cœurs, un cœur pour l'amour et un cœur pour la haine, qu'on avait toujours un seul cœur. Elle parlait de la souffrance des oiseaux, de la souffrance des animaux, de l'essence même de la vie, parce qu'elle donnait la vie, elle devait donner la vie alors qu'elle donnait la mort. Et j'ai tout de suite senti que dans le discours de la femme qui n'était pas habituée à parler de ça, il y avait une dimension qui était une dimension inconnue et que je voulais explorer.
И было видно, что мужчины, часто, когда я приходила в дом, мужчины не давали женщинам говорить. Они все время старались взять инициативу в свои руки. Им казалось, что женщины говорят о каких-то мелочах, о неглавном. Вот мужчины, они говорили там о движении фронтов, участках.
Souvent, quand je venais dans des familles, il y avait le mari et la femme, et les hommes empêchaient souvent leurs femmes de parler. Ils avaient eux-mêmes un discours bien réglé, et ils pensaient que les femmes, lorsqu'elles parlaient de la guerre, ne parlaient pas de choses essentielles, parce que les hommes parlaient de front, les positions du front, le mouvement des troupes par-ci, par-là, enfin les grandes affaires stratégiques. Alors que les femmes, quand elles commençaient à en parler, apportaient immédiatement une touche qui rendait l'incompréhensible compréhensible. Par exemple, cette personne qui avait été infirmière et dont le travail consistait à faire, enfin la bataille terminée, à aller inspecter en quelque sorte le champ de bataille pour voir s'il restait des survivants. Elle raconte comment elle regardait ces jeunes gens fauchés par les balles et comme elle les trouvait beaux, les Allemands jeunes et beaux, les Allemands comme les Russes, qui étaient couchés les uns à côté des autres, souvent les uns sur les autres. Et elle se posait la question de l'humanité, comment rester humain dans cette situation. Il ne s'agissait plus du tout d'un discours patriotique ou grandiloquent. Il s'agissait simplement du côté parfaitement immonde de la guerre, du côté sale, du côté terrible de la guerre et du travail harassant que représente la guerre, de la folie humaine que représente la guerre. Donc, quand je parlais avec les femmes, je sortais immédiatement du discours convenu et du discours de la langue de bois auquel nous étions habitués.
Я хочу сказать, что вот в последние два года я вернулась своим военным книгам и вот к этой книге. Почему? Потому что, во-первых, тогда ее два года не печатали, и только через два года напечатали, поскольку это было, меня обвинили в натурализме, пацифизме, и ее напечатали только когда пришел Горбачев, но сократив наполовину. И я, когда
готовила книгу по переизданию, repris mon livre, parce que non seulement elle était censurée pendant deux ans, mais la guerre n'a pas un visage de femme, m'a semblé un livre important à la lumière de ce qui se passait actuellement. C'est pour ça que je voulais le refaire et je l'ai refait parce que nous le voyons aujourd'hui avec les nouvelles formes de guerre, de cette guerre, des guerres asymétriques, des guerres locales qui se passent actuellement. Nous voyons une présence accrue des femmes et à des postes de combattants qui étaient inconnus jusqu'ici, des femmes terroristes, des femmes kamikazes. Il m'a semblé très intéressant et très important de s'interroger sur ce nouvel aspect et de se demander, de se poser la question sur le sens des choses, qu'est-ce qui se passe quand la femme entre dans la guerre? Pourquoi la femme prend-elle les armes? Pourquoi elle se lance dans des formes de combat les plus extrêmes? Il me semble que cette entrée des femmes dans la violence la plus troublante devrait tous nous interpeller. Nous devrions nous interroger non seulement sur le sens de cette chose, mais aussi sur l'avenir que ça annonce pour notre humanité.
Тех опасностей, которые начинаются из истории, но стерегут нас сегодня, каждый день. Зло все время нас искушает.
Mes livres ne sont pas des livres d'histoire, c'est des livres qui partent de l'histoire, mais qui sont des réflexions sur le mal qui nous guette aujourd'hui et qui nous guettera toujours.
Bienvenue dans cette émission Esperanza, l'espoir, Esperanza non féminin. Vous avez compris que cette émission allait être sous différents signes, celui bien sûr de la Journée internationale des droits des femmes qui va avoir lieu comme son nom l'indique, partout dans le monde, et en particulier ici en Ariège, il y a plein d'événements qui sont organisés. C'était un petit peu autour de ça que j'avais prévu de construire cette émission de début mars. Je voulais également prolonger les émissions sur la poésie et les poétesses femmes. Il y en aura un petit peu aujourd'hui. Et les événements ont bousculé, l'invasion de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, ont bousculé un peu ma préparation. Et donc je propose cette émission qui va mélanger un petit peu ces différents thèmes. J'ai commencé par une chanson, un peu d'énergie et de gaieté dans ce monde difficile. Demande aux femmes, c'est Francesca Solville qui l'interprète sur un texte de Claude Riva. Je pense que c'est explicite. Et je vous proposais donc de demander aux femmes, par exemple, à Sveltana Alexievitch, qui est donc née en Ukraine, élevée en Biélorussie, auteure, essayiste, prix Nobel de littérature en 2015. Elle a écrit depuis les années 80, surtout en donnant la parole à des femmes, à des hommes, à des combattants, autour de ce questionnement sur l'homme soviétique, l'homme rouge, hein, comme elle le dit dans le titre d'un de ses derniers essais et romans. Dissidente bien sûr au régime de Poutine, elle a récemment co-signé une tribune pour demander la paix en Ukraine. Et donc l'extrait que vous venez d'entendre, où j'ai beaucoup apprécié moi cette émission, parce que on entend la voix de Sveltana Alexievitch et bien sûr son traducteur. Et cet extrait, donc une série de 5 émissions à voix nue sur France Culture, Jean-Pierre Thibauda, des émissions enregistrées en 2005 et rediffusées en 2015 au moment où elle a reçu le prix Nobel. Bon, voilà, ça c'était pour débriefer un petit peu ce que vous venez d'entendre. Je ne fais pas de commentaires sur le contenu, hein, qui est assez puissant. Et on va prolonger cette interview avec un extrait également d'une autre émission. Bon, mais c'est autour des relations d'un dictateur avec les artistes. Donc, bien avant Poutine, il y avait d'autres dictateurs, comme entre autres Staline, avant ses poursuivants, qui étaient fascinés par une artiste, une pianiste, Maria Iudina, qu'il avait entendue à la radio. Vous allez écouter l'anecdote racontée par Bruno Mont-Saint-Jean. C'est extrait d'une émission sur France Culture, Une vie, une œuvre. Maria Iudina, la pianiste de Staline. Et on enchaînera après quelque chose de léger.
Alors pour Iudina, c'est autre chose. Iudina, on sait qu'elle avait un caractère épouvantable. Staline aurait certainement pu, à une certaine époque, la faire disparaître, comme il aurait pu faire disparaître d'autres artistes. Il aurait même pu faire disparaître Prokofiev. Ça, c'est une grande question. Les relations qu'entretient Staline avec les arts et les artistes, et donc là, les musiciens en particulier, sont toujours dictées par un calcul politique.
Comment est-ce qu'ils ont pu la laisser passer? Et je crois, mon explication, je crois, c'est que il y avait la peur d'un personnage qui n'a pas peur. Dans un pays de terreur, qui était évidemment l'Union soviétique sous Staline, quelqu'un qui n'a pas peur, quelle prise est-ce qu'on peut avoir sur lui? C'est impossible. Et il y a la fameuse histoire, également rapportée par Shostakovich, cette histoire invraisemblable, elle a joué à la radio. À la radio, le concerto en ré mineur de Mozart, avec un orchestre qui était dirigé par Alexandre Gauck. C'était une retransmission directe, et il se trouve que Staline, qui était un personnage nocturne qui vivait la nuit, a entendu cette retransmission, et a appelé, comme tout bon dictateur, directement, personnellement, le directeur de la radio, pour lui demander s'il existait un disque de ce concerto de Mozart joué par la dame qui le jouait. Le directeur de la radio, effrayé par le fait d'avoir un coup de téléphone de Staline, a bien entendu dit que le disque existait. Staline a demandé que le disque lui soit apporté dans son bureau dès le lendemain, au Kremlin. Il n'y avait pas de disque, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'enregistrement, c'était une transmission directe non enregistrée. Et donc le directeur de la radio a convoqué dans la foulée l'orchestre, le chef d'orchestre, et Maria Iudina pour revenir dans le studio, enregistrer le disque, faire ouvrir dans la nuit les usines de pressage de disques, l'usine qui presserait aussi l'étiquette. tout ce monde-là a été mis en alerte. Yudena est revenu et a joué tranquillement son concerto de Mozart. Le premier chef d'orchestre qui avait été reconvoqué a eu une telle panique qu'il a dû être évacué. On a fait venir un deuxième chef d'orchestre, finalement un troisième, parce que l'un après l'autre, ils étaient morts de trouille. Et donc l'enregistrement a eu lieu pendant la nuit. Pendant ce temps-là, le pressage de l'étiquette et du disque en un unique exemplaire a été préparé, apporté sur le bureau de Staline dès le lendemain. Sur quoi Yudina a reçu une lettre de Staline accompagnée d'une somme de 20 000 roubles. Il faut mettre ça en perspective. 20 000 roubles, c'est pas ce que ça veut dire aujourd'hui, bien entendu. Le cachet des plus grands artistes soviétiques de l'époque, le cachet des Oistrakh et Mravinsky, le cachet, disons, de la plus haute, du plus haut degré de la hiérarchie des artistes du peuple, était de 200 roubles. Staline lui envoyait 20 000 roubles, c'est-à-dire 100 fois plus qu'un cachet habituel pour un concert.
Et 200 roubles par rapport à la vie quotidienne du citoyen soviétique moyen, c'était...
Je crois que à l'époque, ça devait être aux alentours de 120 roubles par mois. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable, ce qu'elle a reçu. Et sa réaction a été toute simple. Elle a envoyé une lettre à Staline, que je cite à peu près littéralement. Camarade Staline, je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée, de l'aide que vous fournissez. Je vais consacrer les jours suivants à prier le Seigneur pour qu'il pardonne les crimes que vous avez commis envers notre peuple et notre pays. Le Seigneur est miséricordieux, il vous pardonnera. Quant aux 20 000 roubles, je les ai fait parvenir à ma paroisse pour la reconstruction de la paroisse et pour que tous les paroissiens se joignent à ma prière.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Yudina. Je n'ai pas de rhapsodie, pas de symphonie.
Grâce à son piano.
Esperanza prend le porte-voix vers la gauche ou vers la droite. Prend le porte-voix, résister, c'est créer. Émission préparée et animée par Pôle Sud. On est à mi-parcours. Presque à mi-parcours de cette émission, donc Esperanza, Esperanza non féminin, Esperanza demande aux femmes. C'était le texte de Francesca Solville, la chanson. Esperanza, la guerre n'a pas un visage de femme, bien sûr en lien avec l'actualité, en lien avec la Journée internationale des droits des femmes, qui connaîtra plein de déclinaisons en ce début de mois de mars, partout ici en Ariège, du côté de Saint-Girons, du côté de Foix, Pamiers, manifestation de nuit, projection du film Debout les femmes, que je vous recommande chaleureusement. Et donc, en lien bien sûr avec l'actualité de cette guerre qui dit son nom en Ukraine, on a entendu tout à l'heure Svetlana aller Alexievitch, qui parlait de la place des femmes dans la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle la Grande Guerre patriotique en Russie, avec la bataille contre les nazis qui occupaient la Russie. Et donc Staline, Maria Yudina, la relation entre un dictateur et les artistes, mise en musique par la Grande Sophie, dans cette chanson un peu plus légère. Alors on va poursuivre dans ces thèmes, ce mélange de thèmes. On va remonter en France à la fin du 19e siècle, la Commune, avec un poème de Louise Michel, égérie s'il en est de la Commune, et qui, à l'occasion de la journée du 18 mars 1871, qui a signé le début de l'insurrection de la Commune, avait écrit ce poème, La danse des bombes, qui a été mise en musique, retravaillé et mise en musique par Michel Bernard en 2004. On va l'entendre. Vous verrez, c'est un texte assez belliqueux pour des femmes, et un texte beaucoup plus féministe dans son propos, c'est La grève des mères, dans une version de Mireille Riva, écrit par Montéus en 1905, un texte qui a bien sûr été censuré, qui appelait à bas la guerre et les tyrans, qui a été repris après par les féministes dans les années 20 pour disposer de leur corps et faire la grève des ventres. Et ces deux textes qui vont s'enchaîner nous mettront en perspective d'un texte que je vais vous lire de Lydie Salvert.
Le feu et la mitraille, puisque les fusils, les canons vont dans le monde des entailles, couvrant de morts plaines et vallons, puisque les hommes sont des sauvages qui revilent Dieu, fraternité, femme debout, femme à l'ouvrage, il faut sauver l'humanité. refuse de peupler la terre. Arrête ta fécondité, déclare la grève des mères. Au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as lutté pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. L'enfant qui fut ton espérance, l'être qui fut nourri de ton sein, meurt dans d'horribles souffrances, te laissant vieille sans un morceau de pain. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mères. Au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur terre des barrières? Pourquoi d'éternels crucifiés? Le meurtre n'est pas une victoire. Qui sème la mort est un maudit. Nous ne voulons plus, pour votre gloire, donner la chair de nos petits. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, déclare la grève des mères. Au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang. Abat la guerre et les tyrans.
Sans aucune déclamation, sans aucune proclamation, sans aucune emphase, sans aucun dogme sur lequel s'appuyer, sans aucun décret, sans aucun concile, sans aucune autorisation, sans aucune permission, sans aucun blanc-seing, sans aucune expérience ni aucun modèle auquel se conformer, sans aucun bénéfice escompté, sans l'attente d'aucune gloire, sans le souci d'aucune renommée, sans armes, sans aucune obligation, sans aucune intimidation, sans l'ordre d'aucun chef, ni d'aucun sous-chef, ni d'aucune sommité, ni de personne. Une poignée de folles, j'ai bien dit de folles, entrèrent en résistance entre 1940 et 1943. Une poignée de folles entrèrent en résistance, sans rien d'autre pour se mouvoir que le sentiment de l'inacceptable. Une poignée de folles firent le pari fou, le pari qui paraissait fou à l'époque, qu'un autre ordre était possible que celui qu'elles subissaient dans la honte et le dégoût. Une poignée de folles se jetèrent dans la lutte, portées par une sorte d'évidence et presque sans réfléchir. Et toutes, plus tard, le dirent à leur manière. Leur engagement précéda en elles toute réflexion, toute préméditation, tout ébat intérieur, tout calcul. Leur engagement s'imposa avec la même force, la même imprudence, la même sauvagerie que celle avec laquelle l'amour s'impose aux amants. Ces femmes entrèrent en résistance comme les amants se donnent à l'amour, sans aucun filet, sans aucune assurance, sans aucune garantie sur l'avenir où leurs gestes les conduiraient. Emportées, inconsciente, écrira Rose Vincent Jürgensen. Une poignée de folles entre 1940 et 1943 se levèrent pour dire non, contre toute raison, contre toute sagesse. Car il fallait qu'elles fussent folles, ces femmes, pour mener à quelques-unes un combat aussi inégal. Car il fallait qu'elles fussent folles pour mettre la révolte de leur conscience au-dessus des juridictions, au-dessus des raisons d'État, au-dessus des pouvoirs de tous les ordres. Il fallait qu'elles fussent folles pour aller aussi résolument contre l'avis commun, lequel, blasé, affirmait alors que la lutte était perdue d'avance, sinon totalement impossible. Impossible la lutte. Impossible autant que nécessaire pour cette poignée de folles qui prirent le risque de se battre et d'en mourir, plutôt que de se voir diminuer, humilier, déshonorer par une situation qui leur était insupportable. Ces femmes entrèrent en résistance parce qu'il y avait en elles une impossibilité organique à consentir au déshonneur, parce que la conscience de ce déshonneur s'insurgeait dans leur sang, dans leurs os et jusque dans leur mère. Gisèle Guillemot écrira depuis la prison de Fresnes. Lui et moi, on n'a pas supporté. Les prisons et les camps, ces gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait, et les petits-enfants entassés dans les trains. Ces folles, guidées par un instinct plus sûr que tout savoir, entrèrent en résistance avec une sorte de détermination sauvage, et comme si elles ne pouvaient faire autrement que se battre. Ces folles se levèrent pour refuser la situation d'un pays qu'elles trouvaient scandaleuse, parce que le sort fait à quelques-uns était proprement scandaleux. Scandalisées devant l'horreur, soulevées par la colère, révulsées par l'injustice, ces folles entrèrent en résistance. Non parce qu'elles étaient personnellement menacées, non parce qu'elles étaient personnellement maltraitées, mais parce que des juifs, des fous, des tziganes, des homosexuels et des rouges qui arrivaient d'Espagne étaient traités d'une façon indigne, sinon monstrueuse. Et elles ne reculèrent pas lorsqu'il fallut à leur dite franchir le pas. Je ne savais où j'allais, mais j'allais, écrira Françoise de Boissieu, car il fallait foncer vers quelque chose. Elles n'hésitèrent pas. Quels que fût les risques encourus et quelque improbable que fût l'issue du combat. Car ces folles avaient cette folle certitude qu'accepter plus longtemps un monde infâme était plus dangereux pour elles et plus mortel qu'une bataille à une contre mille. En luttant contre l'occupant, nous étions sûrs d'avoir raison, affirmera Rose Vincent Jürgensen. Car ces folles avaient la folle certitude que vivre n'est pas vivre si l'on cède sur l'essentiel. Car ces folles, faut-il le dire, aimaient passionnément la vie et étaient prêtes à la défendre de toutes les façons. Car le choix de résister signait pour elles un choix vital, le choix de la vie contre les forces brunes de la mort. Ces folles, je l'ai dit, s'engagèrent sans nulle prudence pour leurs engagements. Elles se montrèrent en revanche dans l'accomplissement de leur mission d'une extrême prudence. Car toutes ces folles savaient que ce n'était pas leur seule vie que leur engagement mettait en jeu, mais celle de toute une chaîne d'hommes et de femmes, aussi fous qu'elles, aussi follement imprudents qu'elles et aussi follement prudents. Et elles qui s'étaient jetées dans la lutte impulsivement et comme on se jette dans le vide, calculèrent les risques de leurs actions avec la précision la plus extrême, les calculant d'autant plus précisément qu'ils étaient mille fois plus nombreux que leurs chances de réussir. Constamment aux aguets, se méfiant de tous et de tout, écrira Christiane Audibert-Bouloche, et même des plus proches. Ces femmes adoptèrent la prudence des bêtes, s'assurant sans cesse qu'elles n'étaient pas suivies, repérant les immeubles à deux sorties, n'attendant jamais plus de 5 minutes un rendez-vous, multipliant les précautions, reniflant les alentours comme les animaux la trace du chasseur. Ces folles, follement imprudentes, se montrèrent follement prudentes dans leur menée guerrière. Ces folles, follement indignées, se montrèrent follement calmes au moment crucial. Ces folles, follement déraisonnables, se montrèrent follement efficaces lorsqu'il leur fallut prévoir une attaque, trouver les failles par où s'insinuer et construire d'ingénieux stratagèmes dans le dos du terrible ennemi. Ces folles, follement impulsives, se montrèrent follement obstinées et follement endurantes lorsqu'il leur fallut résister au désespoir devant ceux qui tombaient. « Il me fallut, » écrit Anice Postel-Vinet après son arrestation et celle de son père, « il me fallut toute mon énergie pour lutter contre l'immense détresse qui m'envahissait. » Et Suzanne Rocker-Salmanovitch, après avoir vu son mari mourir sous ses yeux, dira dans son témoignage « La lutte continue. » Ces folles si fragiles et dont la peur qu'elles éprouvaient était, selon Rose Vincent Jorgensen, bien pire que la faim, ces folles se montrèrent follement audacieuses lorsqu'il leur fallut livrer bataille contre un ennemi qui était 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus fort qu'elles. Car ces folles qui entrèrent en résistance étaient dépourvues de tout moyen guerrier. Et il fallait qu'elles fussent folles pour entrer en résistance ainsi dépourvues de tout moyen guerrier. Nous n'avions, écrit Odile Paul-Roux, non sans ironie, que quelques mousquetons et quelques mitraillettes, débris d'un parachutage resquillé. Les maquisards de la Cour Égée fabriquaient des mitraillettes et des grenades en bois. Clandestine, isolée, pauvre d'armes, ces folles furent donc contraintes de trouver d'autres armes que celles, massives, des occupants. Face à la lourde machine de guerre qui terrifiait le monde, ces folles eurent l'idée, née de la pauvreté, d'user de grains de sable. Elles eurent cette idée, née de la pauvreté, d'ensabler la machine à tuer, grain à grain, plutôt que d'un coup la détruire, ce dont on n'avait d'ailleurs pas les moyens. Elles eurent l'idée d'enrayer sa mécanique en douce, de la détraquer petitement, de lui porter des coups insignifiants, mais répétés et innombrables. Démunies de tout, ces folles opposèrent à la force, la ruse et l'obstination. Aux attaques de front, ces folles opposèrent des petites escarmouches, de subtils sabotages, d'imprévisibles assauts, de minuscules insurrections. Aux grandes manœuvres, ces folles opposèrent des gestes infimes, tels celui de lacérer des affiches ou de sectionner des fils télégraphiques comme le fit Françoise Dupont. Tel celui d'inscrire furtivement sur un mur le V de la victoire, de fabriquer de fausses cartes d'identité pour échapper au STO, de relever, ainsi que le raconte Anise Postel-Vinet, les points d'impact des bombes anglaises sur le port du Havre, ou simplement de déclamer un poème pour les prisonnières d'un camp. Au déploiement impressionnant de l'attirail de guerre, ces folles opposèrent les pratiques de la feinte, de la fuite ou de l'évitement. Nous n'aimions pas croiser les vers de gris et nous ne voulions pas avoir affaire à eux, écrira Rose Vincent Jorgensen. Aux énormes trouées ouvertes par le front adverse, ces folles opposèrent de petites fissures creusées dans le dispositif guerrier. À l'avancée des chars, ces folles opposèrent des petits bouts de papier écrits la nuit, dans la fièvre, sur de vieilles machines à écrire avec des mots fragiles mais qui résonnaient longtemps dans les cœurs et donnaient du courage. Car ces folles, follement démunies, avaient compris que pour réussir leur bataille, il leur fallait déjouer toutes les règles de la guerre classique et livrer une toute autre lutte, furtive celle-là, mobile, rouée, féminine, inventives. Elles avaient compris qu'il leur fallait constamment inventer un nouvel art guerrier. Devenir mobile. Suspendre l'ennemi. Brouiller les pistes. Répandre de fausses nouvelles. Tirer parti du moindre point faible. Multiplier les lieux de résistance. Inventer des alliances improbables. Faire confiance à un visage. Livrer en quelque sorte une guerre de biais. Une guerre sans guerre. Telles furent les tactiques qu'avec génie elles appliquèrent. Et toutes découvrirent alors, elles qui tremblaient de peur, elles qui étaient faibles, elles qui étaient clandestines, elles qui étaient isolées et sans armes. Toutes découvrirent alors qu'elles s'avéraient capables d'une énergie, d'un sang-froid et d'un courage dont elles ne se savaient pas porteuses. Toutes découvrirent qu'il y avait dans leur fragile résistance quelque chose qui les dépassait, qui démultipliait leurs forces et réveillait en elles les pouvoirs quasiment inhumains. Toutes découvrirent que, dans cette lutte si inégale et dangereuse, leur vie, la vie, devenait ce qu'elle devrait toujours être, une chose extraordinairement précieuse. La précarité de nos existences se donnait un prix incroyable à chaque instant, dira Françoise de Boissieu. Entre 1940 et 1943, une poignée de femmes, résistantes, répondirent à l'invivable par une salve d'avenir que l'on entend encore, que l'on n'a pas fini d'entendre. Femmes dans la guerre. Texte de Lydie Salver, extrait d'un recueil en 2004, Femmes dans la guerre 1940-1945. Texte de Lydie Salver dédicacé à Sophie Scholl et que je vous ai lu sur une musique de Yann Tiersen, paru en 2021, un album Kerber. On va terminer avec une chanson encore plus récente, une chanson sans peur, Canción sin miedo. C'est une chanson d'une Mexicaine, Vivir Quintana, qui l'a écrite et composée en 2019 et qui est devenue cette chanson un hymne national et international. On va entendre une version par Vivir Quintana et Mon Laferte, qui est une autre artiste chilienne. Chanson qui est très explicite. Que l'État tremble, le ciel, les rues, que tremblent les juges et le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, les femmes ont arrêté d'être calmes. Ils ont semé la peur en nous. Ils nous ont fait pousser des ailes. Chaque minute de chaque semaine, ils nous volent des amis, nous tuent des sœurs. Ils détruisent leurs corps, les font disparaître. N'oublie pas leur nom, s'il te plaît, Monsieur le Président. Pour toutes les camarades qui manifestent à Réforme, pour toutes les mères combattantes de Sonora, pour les commandantes qui luttent au Chiapas, pour toutes les mères qui cherchent à Tijuana, nous chantons sans peur, nous demandons justice, nous crions pour chaque personne disparue, que cela résonne fort, nous voulons vivantes, que le féminicide s'effondre enfin. Je fous le feu à tout, je casse tout, si un jour un type te ferme les yeux, rien ne m'arrête, j'ai tout ce qu'il faut, s'il touche une femme, nous répondrons toutes. Je m'appelle Claudia, je m'appelle Esther et je m'appelle Teresa. Je m'appelle Ingrid, je m'appelle Fabiola et je m'appelle Valeria. Je suis la fille que vous avez forcée. Je suis la mère qui pleure maintenant. C'est morte. Et je suis celle qui va te faire payer pour ça. Justice, justice, justice. Et que tremblent les entrailles de la terre devant le rugissement de l'amour. Et que tremblent les entrailles de la terre devant le rugissement de l'amour. A très bientôt sur Radio Transparence, Oxygène FM.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron amor.
señor presidente.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Y retiembla en sus centros la tierra al soro.
Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir de la.
Version chorale, Toulouse, 25 novembre 2020.
Yeah.